Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Bienvenue dans Retouche et Terre, un podcast co-réalisé par Village Magazine, Les Localos et La Traverse. Il est consacré aux personnes qui font le choix de partir des villes pour s'installer à la campagne. Chaque épisode sera l'occasion d'un échange avec des personnes qui ont eu ce type de trajectoire et sur comment cette intégration dans un nouveau territoire peut se faire d'une manière qui participe à la transition écologique. Loin de considérer les territoires ruraux comme des cadres agréables mais inertes, nombreux sont les nouveaux arrivants qui souhaitent participer activement à l'amélioration de la résilience locale. Dans l'épisode précédent, nous avons mis en avant des porteurs de projets qui ont créé un commerce en centre-bourg, participant ainsi à redynamiser leur village. Cette fois, avec nos deux invités, nous explorons un autre thème central pour la revitalisation des territoires ruraux, un aspect qui paraît évident, l'agriculture. Nous nous intéressons aux installations qui cherchent à réencastrer l'activité agricole dans les systèmes environnementaux et humains, donc à faire système en créant une dynamique positive sur leur territoire de vie. Avec nos invités, nous avons aussi parlé du partage de la charge de travail permis par l'installation collective. Nous nous intéressons également au rapport à la machine de ces paysans qui questionnent l'endettement et la perte d'autonomie qu'induit dans le milieu agricole conventionnel le recours à des machines. Je passe la parole à Jean-Yves Pinault, directeur des Localos, qui nous apporte quelques éléments d'analyse sur ces sujets, et à Sylvie Le Calvez, directrice de la revue Village, qui interroge nos invités et va commencer par nous les présenter.
Isotte Deljean, qui est maraîchère en Seine-et-Marne depuis 4 ans, et qui va nous en dire plus dans quelques instants, qui est installée en GAEC. Et puis Marc Beignet de Radi & Co, moi je dis Enco et Eco, on dit, en Mayenne, au nord de Laval, à Montflour exactement. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par Isotte parce que voilà, c'est honneur au maraîchère. Quelques mots sur votre parcours, votre installation, votre envie d'installation. Vous veniez d'où? Ça s'était passé comment? Racontez-nous.
Donc en fait moi j'étais sage-femme, il y a 5-6 ans j'ai eu envie en fait de revenir à la terre, de changer de métier et j'ai commencé à m'intéresser au métier plutôt avec le végétal, donc c'est pour ça que je suis maraîchère et pas éleveuse, j'avais vraiment pas de feeling avec les animaux, mais l'important c'était vraiment pour moi, c'était aussi des convictions politiques d'être dans la production alimentaire. Je pense que c'était un peu aussi changer, essayer à petite échelle, bien sûr, en toute modestie, mais de faire évoluer la société. Et on se rend compte que, enfin, en produisant et en commercialisant une partie de l'alimentation, bah, ça change quand même les choses. Donc j'ai pris un parcours classique. En fait, j'ai fait un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et après, j'ai eu la chance de faire un test d'activité. C'est vraiment bien, en fait. Ça permet de se tester pendant 3 ans sans... parce qu'en fait, l'installation en milieu agricole, c'est assez lourd au niveau des investissements, des sociétés juridiques qu'il faut mettre en place. Et donc là, ça m'a permis pendant 3 ans de pouvoir tout tester avant de lancer. Et là, depuis le 16 décembre dernier, on est très contents, on est associés donc, avec mon tuteur qui était mon maître de stage pendant ces 3 ans. Et on produit chacun, enfin tous les deux ensemble, 200 paniers semaine qu'on distribue entre Paris et Petite Couronne. Voilà, voilà.
Merci pour cette présentation. Marc, c'est différent, ça fait beaucoup plus longtemps, c'est dans un collectif encore bien plus important, pas juste 2 associés, racontez-nous.
Ça fait beaucoup plus longtemps, pas tellement, ça fait 10 ans qu'on vient de fêter avec joie. Nous, c'est une histoire qui a commencé dans nos jeunes âges, quoi. On avait 20 ans et on était très énervés, on se demandait comment on pouvait faire changer tout ça. On sentait qu'il fallait qu'on agisse, quoi. C'est ça qui nous a réunis au début dans notre groupe. On a milité un petit peu autour des faucheurs d'OGM ou des actions contre la publicité, ou en tout cas on militait sur le territoire de la Mayenne. parce que moi j'habitais là-bas et puis mes associés d'aujourd'hui et néanmoins amis habitaient aussi là, soit pour des études, soit pour je ne sais pas quelle raison, le cœur. Et on a milité plusieurs années jusqu'à avoir envie de construire quelque chose ensemble. Une étape supérieure, un peu comme disait Iseut, on sentait qu'on avait besoin de créer quelque chose de constructif pour l'ensemble de la société, très localement, et le levier alimentation, ça nous paraissait un bon démarrage. Prendre part à cette charge de travail qu'est produire à manger. Pour soi, mais aussi pour les autres. C'est un peu notre service militaire à nous. Passer quelques années de notre vie, en tout cas c'est comme ça qu'on l'envisageait au début, à produire de la nourriture pour les gens.
Alors Jean-Yves Pinault, Delou Calou, qui est avec nous pour chaque Retoucher Terre, qu'est-ce qu'on a envie de demander à nos deux invités aujourd'hui ?
Je suis vraiment ravi de ce Retoucher Terre, parce que là on est au cœur du sujet, quoi. Voilà. Et donc de dire en fait replacer, re-questionner comme Iseut le fait, comme Marc le fait, cette question de produire de l'alimentation. Voilà. Et là, me semble-t-il, dans ce début de Retoucher Terre, beaucoup de choses ont été dites. C'est-à-dire que en fait, dans les expériences que mènent Iseut et Marc, on voit bien la question du sens. On voit bien que ce qui est re-questionné dans cette fonction essentielle qui est de produire l'alimentation, il y a autre chose qui se pose comme question. Voilà, c'est le sens, c'est le métier, c'est aussi ton entame, hein, Sylvie, sur la manière en fait d'imaginer ce que c'est que l'agriculture, qui devient quelque chose de très techno, qui devient un marché, qui devient quelque chose qui devient finalement hors sol dans tous les sens du terme. Et donc Retoucher Terre, c'est aussi, me semble-t-il, ça, hein, l'illustration que nous donne Marc et que nous donne donc Iseut. Vous re-questionnez le modèle économique, vous re-questionnez donc le métier. Pour moi, c'est une question politique et pour moi, c'est même une question philosophique. Donc voilà, on est bien au cœur du sujet et ce qu'on a envie évidemment de discuter avec vous et de vous entendre, c'est à la fois votre rapport au territoire, là où vous exercez votre métier, et puis cette question de dire comment vous arrivez à vivre bien ou pas bien de votre métier. Voilà, expliquez-nous un petit peu les relations. Je crois que ni l'un ni l'autre, vous êtes en plus issus du monde agricole.
Mon ancrage sur le territoire, en fait, moi, il est un peu entre mes deux lieux, puisque mon lieu de production, en fait, il se trouve en Seine-et-Marne, donc à côté de Coulommiers. Et j'habite encore dans le lieu où je commercialise, c'est-à-dire Paris 18e. En fait, ça s'est fait un peu comme ça parce que déjà, la map que j'ai créée, la première, maintenant j'en ai une autre en petite couronne à Romainville, mais la première, en fait, c'était vraiment les gens qui croyaient à mon projet, tous autour de moi. Et du coup, c'est eux qui m'ont suivi, c'est eux qui m'ont soutenu. Et du coup, j'étais vraiment au sein, dans le quartier où j'habite, j'y habite depuis très longtemps, et c'est un peu comme un village, en fait. Et du coup, c'est vraiment avec eux que tout est parti. Et après, le lieu de production, notre ancrage territorial, en fait, donc on est en Seine-et-Marne, dans la Brie, c'est de la grande culture conventionnelle, en grande majorité. Donc on a des relations forcément pour tout ce qui est matière organique, puisque nous, on n'est pas comme Marc, on n'a pas les animaux sur la ferme, mais en plus en Île-de-France, il y en a très peu. Donc en fait, nous, c'est de la matière organique, c'est du compost de lin qui est issu justement des grandes cultures à côté. Donc on a quand même des relations avec les agriculteurs. On déplace beaucoup les amapiens viennent beaucoup à la ferme. En fait, dans le contrat AMAP, c'est plus que des consommateurs. Donc nous, peut-être juste deux minutes sur la map. Tous nos chiffres d'affaires de la ferme, il est vendu en AMAP et on a calculé combien il nous faut pour faire fonctionner la ferme à l'année et produire à l'année avec nos salaires compris avec mon associé. Donc tout à l'heure, quand Jean-Yves demandait combien on gagne, en fait, nous, on l'a décidé avec mon associé. On en a parlé aux AMAPiens et du coup, on s'est dit il faut que le prix chaque semaine de la part de récolte, il soit, donc nous, il est à 16 euros, pour que nous, on puisse produire les légumes et bien en vivre. Et vous êtes partie prenante, c'est-à-dire qu'on vous explique tout. Donc nous, on leur a expliqué notre compta, notre manière de produire, Qu'on avait besoin, par exemple, quand on fait des grosses récoltes en octobre ou les grosses périodes de désherbage, de coups de main à la ferme. Donc, en fait, mon ancrage sur le territoire, il est un peu entre mes lieux de distribution et le 77. Et c'est un peu aussi, je le dis en toute modestie, un peu d'éducation populaire, c'est-à-dire que les Amapiens, ils découvrent un peu vraiment les saisons, à quel moment on plante, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le centre-ville qui sont complètement déconnectés en fait du milieu agricole et des saisons. Et puis après, c'est aussi un peu politique parce qu'ils comprennent un peu toutes les questions agricoles. Chaque semaine, nous, on est aux distributions, on leur raconte un peu notre vie. Quand on est énervé par quelque chose, forcément, on en discute. Quand on est content, et c'est la même chose.
Merci Isotte. Comment ça se passe? Comment est perçue votre exploitation là, vis-à-vis des autres agriculteurs?
On a des relations déjà pour tout ce qui est pratique. Donc on a forcément des échanges sur du matériel, de l'externalité. Enfin, faut savoir que nous, on cherche pas du tout à s'isoler. Au contraire, hein. Après, c'est plus que en fait comme quand on part, quand on n'est pas issu du milieu agricole, déjà on part de zéro. Donc pour franchir les étapes, c'est vraiment plus confortable de s'appuyer déjà sur. Moi j'avais mon réseau, autour de mon quartier. Les gens étaient prêts à me suivre, donc c'était quand même plus confortable pour moi déjà de partir de là que de reconstruire toute une commercialisation dans le 77 qui est. On va dire aussi un petit peu de dortoir dans l'autre sens. Moi, clairement, dans le train, je vais tout le temps à contre-courant les gens. Les gens, ils viennent travailler à Paris. Ils vont dormir dans le 77. Donc, il y avait des questions sur la commercialisation qui étaient très compliquées par rapport au fait de créer la map. Donc, déjà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ensuite, c'est vraiment parce que, justement, on pouvait parler avec eux du prix des légumes. On pouvait tout leur expliquer. Et ça, c'est difficile pour certains agriculteurs, mais pas par rejet, je dirais juste, ils ont vraiment du mal à comprendre ce système d'AMAP. Donc nous, on est 100% part de récolte AMAP. Ça veut dire que même quand, entre guillemets, on a des surplus, en fait, c'est pas des surplus puisque tous nos légumes sont déjà achetés. Donc nous, on met tout aux Amapiens. Et il faut comprendre que c'est dans les deux sens, la solidarité. C'est-à-dire que quand nous, on a moins de choses à mettre dans les paniers, ils l'acceptent, mais je veux dire, le producteur, quand il a plus, il donne plus aux Amapiens. Et ça, cette déconnexion, en fait, d'être commerçant, mais d'être vraiment paysan, c'est difficile avec d'autres agriculteurs qui restent des commerçants et qui nous disent « Non, mais attends, tes surplus, tu les vends à machin, tu les vends à midi. » Non, en fait, ils sont déjà achetés, j'ai pas de surplus, en fait. Et c'est plus cette gymnastique, en fait, intellectuelle qui est difficile à comprendre pour eux. Nous, cette année, on a voulu se faire une petite cagnotte, on va dire, pour construire une serre à plan bioclimatique. Et on voulait pas encore avoir recours à l'emprunt bancaire. Et donc, on a expliqué aux Amapiens, le panier, il augmente de temps, ça fera à la fin l'argent pour la serre bioclimatique. Les gens, ils le comprennent, en fait, quand on explique. Et on n'a pas besoin d'organiser quelque chose de participatif c'est leur ferme, en fait, ils viennent tout le temps. Nous, on travaille pour produire leurs légumes. Du coup, ça se passe bien. Et c'est ça que d'autres paysans ont du mal à comprendre. Et aussi, peut-être parce qu'ils se sentent un peu trop d'ingérence dans leur ferme, alors qu'en fait, c'est une co-culture, un co-développement, quoi. C'est pas de l'ingérence, en fait.
Ils sont combien, ces Amapiens? Ça augmente toujours ou vous en avez besoin de plus?
En fait, on distribue 200 paniers. Après, comme on est en milieu urbain, il y a des gens qui se partagent des paniers. Enfin, il y a toutes les... Nous, on distribue 200 paniers. Et après, entre eux, ils s'arrangent. Donc, en gros, on a un écosystème. Moi, j'aime vraiment l'appeler comme ça. De 200 personnes. Donc, soit c'est des couples, soit c'est des colocations, soit c'est des gens qui se partagent des paniers qui tournent autour de la ferme.
Merci, Romarc. Pareil, même question. Comment ça se passe, l'ancrage dans la Mayenne? Quel lien vous avez avec votre territoire dans ce collectif? Comment ils vous ont perçu, à la fois les élus, les habitants, les autres agriculteurs dans cette installation collective? Quel retour vous avez?
Ouais. Nous, avant l'installation, donc on a été étudiants et militants en Mayenne, autour de Laval. On a rencontré les réseaux de paysans bio. On allait les voir pour découvrir ce que c'était que l'agriculture, parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était qui étaient devant nous et qui nous intéressaient. Donc on allait vers eux, ils avaient besoin de coups de main, on a appris à travers eux. On s'est fait des amis. Il y a d'abord ce gros réseau-là de paysans en Mayenne, réunis notamment au sein du CIVAM Bio, qui est une association. Donc ces gens-là nous ont accueillis très bien quand on a commencé à proposer cette idée de s'installer tous ensemble. Ils ont pris ça du bon côté et nous ont soutenus tout de suite. Et après, bon, quand il a fallu aller voir les organisations professionnelles, disons, de l'autre bord, sans vouloir mettre les gens dans des cases, la Mayenne, la Chambre d'agriculture est dirigée par la FDSEA. Globalement, c'est un milieu qui n'a pas été accueillant pour nous. Nos premières rencontres à la Chambre d'agriculture, on s'est senti vraiment pas accueillis. Mais c'est pareil pour les banques, en fait c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a que les paysans bio qui nous ont bien accueillis. Le reste, il a fallu vraiment qu'on fasse nos preuves. Au début, on n'avait pas eu tout le discours qui convenait avant la formation agricole, parce qu'on était parti pour s'installer sans passer par les circuits classiques. Mais on n'avait pas d'argent, pas d'expérience. Donc on visitait des fermes avec des agents immobiliers, mais bon, ça, c'était pas du tout bien parti. Quand on a décidé de s'installer, on voyait que sans les aides, on ne pourrait pas s'installer. Donc, on a tous fait des formations agricoles pour pouvoir s'installer comme jeunes agriculteurs qui demandent les aides. Et là, ça nous place tout de suite ça nous rend prioritaire dans l'accession au foncier. Ça a été une stratégie. Hein. Et il se trouve que pendant cette année de formation, on a appris à parler à un banquier, on a appris à lire des comptes de résultats, on a maîtrisé un langage qui n'était pas le nôtre. Nous, on avait un langage politique, un langage écologique, mais pas un langage de chef d'entreprise. Mais passé cette année de formation, on a vraiment maîtrisé le discours. Et en plus, on demandait les aides. Et là, d'un coup, toutes les portes se sont ouvertes. Bon, ça, c'est vraiment sur les prémices de l'installation. Après, notre ancrage territorial, c'était vraiment un de nos objectifs de démarrage. C'est-à-dire que pour nous, il y a... La chose la plus importante, c'était faire quelque chose ensemble, parce qu'on partageait la conviction que mener un projet ensemble, ça nous rendait vraiment plus forts, déjà, premièrement, donc plus efficaces dans la réalisation de nos volontés, mais aussi que ça nous poussait plus loin individuellement. C'est-à-dire qu'on se fait recadrer régulièrement quand on est au sein d'un groupe et qu'on doit réaliser des choses ensemble, on ne peut pas s'enfoncer... dans une petite niche, devenir morose trop longtemps. Il y a toujours des gens qui sont là soit pour nous aider, soit pour nous questionner, soit nous remettre en cause.
Expliquez-nous comment ça se passe au quotidien. Vous faites des points tous les jours en équipe. Qui va faire quoi? Vous vous remplacez? Comment est-ce que vous prenez des congés? Parlez-nous de cette forme d'organisation collective. Comment vous l'avez mise en place? C'est pas un GAEC entre un père et son fils, même si c'est... Même si c'est intéressant en termes de transmission, c'est vraiment entre amis. Donc, comment vous avez fait pour vous organiser? Comment ça marche? Et quelle satisfaction, quel point fort vous voyez à cette organisation collective? Ou point faible aussi, difficulté, hein, il faut en parler aussi.
Ah oui, oui. On a pris toutes les grandes décisions. On a dessiné la ferme ensemble avant de s'installer, en imaginant. Le point de départ, c'était qu'est-ce qu'on veut produire. Et le point encore avant, c'était qu'est-ce qu'on mange. Donc, en fait, on voyait qu'on mangeait des légumes, du pain et du fromage. Donc, il fallait qu'on produise tout ça sur la ferme. Et après, on a assez vite fait le choix de se spécialiser, entre guillemets, chacun sur un atelier ou par binôme, pour que chacun ait aussi l'espace de sa propre liberté de réaliser les choses comme on le sent individuellement. Ça nous semblait quelque chose d'important qu'au sein d'un groupe, il n'y ait pas juste une parole ou juste un visage, mais chacun doit exprimer qui il est. Donc c'est quelque chose sur lequel on a été d'accord très vite. Donc aujourd'hui, l'organisation, c'est moi je suis responsable de l'atelier élevage, Steve s'occupe de la fromagerie, Robert et Clément s'occupent du maraîchage, et Estelle s'occupe de la boulangerie et de la menon. Donc chacun dans notre petit coin de la ferme, on pilote un petit peu comme on veut, mais avec des grandes lignes directrices qui nous réunissent. Par exemple, créer un atelier qui soit ergonomique. Faire en sorte qu'on puisse se faire remplacer facilement parce que l'organisation est simple et lisible. Faire en sorte que chaque atelier ait une forme d'autonomie financière aussi, qu'il n'y ait pas des gros déséquilibres entre les différents ateliers, pour qu'il n'y ait pas de tension qui naisse de ça. Et puis, avec ces grandes lignes, chacun a construit l'outil. Mais toutes les semaines, on n'est pas chacun dans notre coin quand même. C'est-à-dire qu'on passe une demi-journée par semaine à discuter, à faire le point de la semaine passée, à parler des investissements prévus par l'un ou l'autre, à recueillir les demandes de stage ou de visite, et à dire oui ou non selon si on est trop peuplé en ce moment ou pas. On a une organisation qui fait qu'on se voit toutes les semaines pour prendre les décisions du quotidien. On s'organise aussi pour que les repas de midi soient préparés à tour de rôle. Donc, 4 jours sur 5, moi je finis mon travail le midi, je m'assois, on me sert à manger. Et après, quand j'ai fini de manger, je bois mon café et je m'en vais et je ne fais même pas la vaisselle. Là, c'est super confortable. Je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est quelque chose qui est important chez nous, le moment du midi où tout le monde se réunit et on consomme ce qu'on a produit. Nous, on a 90% de notre production part dans des associations de consommateurs, donc ils ne sont pas véritablement des AMAP. Souvent, ça a été des amis qu'on constitue une association pour accéder à une salle et organiser une livraison de paniers de légumes et de pain et de produits laitiers chaque semaine. Donc, notre récolte n'est pas préachetée. Il y a des gens qui se sont engagés auprès de nous parce que il y a des gens, ça fait 10 ans qui viennent chercher nos produits. Mais à part une ou deux visites par an sur la ferme, où on leur raconte ce qu'on vit, ils viennent pas nous aider parce que pour nous c'est pas confortable. On n'est pas tous comme ça dans la ferme, mais il y a un côté assez technique qui est pas toujours facile à déléguer et finalement on n'aime pas trop le faire. On se concentre, on transmet à des stagiaires ou à des gens qui viennent vraiment se former sur des longues périodes, mais des chantiers collectifs sur une journée, on a du mal à gérer. Mais donc ça, c'est 90% de notre vente. Il y a deux associations, en gros, ça représente un peu comme Isot, autour de 200 familles. Et les 10% restants, c'est les biocoop du département, surtout en pain et produits laitiers. Les légumes, eux, sont vendus que dans ces associations. Et alors, les prix, on est... À nos démarrages, on avait vraiment envie que ça soit des produits accessibles à tout le monde. Donc, on est parti sur des moyennes de prix de légumes, de maraîchers bio du coin, et on tirait plutôt vers le bas. On a fait ça un peu pour tous nos produits. En fait, on s'est basé sur ce que nos collègues paysans faisaient autour et on s'est à peu près calé le prix là-dessus. Et depuis, on a eu pas mal de... on a été amené à réfléchir à cette fixation du prix, qui est un sujet qui me paraît très compliqué. Parce que moi, par exemple, j'ai fait le choix d'élever des Bretonnes pinoirs, qui est une race ultra rustique, que j'avais envie d'élever parce que j'ai eu le coup de cœur, parce qu'elle avait besoin de soutien pour ne pas disparaître, et puis parce que c'est une vache qui ne demande pas un technicien. C'est des vaches qui vivent sans nous. Ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Ça m'allait bien. Mais c'est aussi une race qui n'est pas ultra productive. Et par exemple, dans notre troupeau de Bretonnes pinoires, on a aussi 2 jerseyaises qui se promènent. Bah, les jerseyaises produisent le double des Bretonnes pour la même alimentation. Et comment répercuter ce choix technique ou ce choix éthique sur le prix de notre fromage, c'est pas simple. Mais on n'a pas la solution. Par contre, ça a amené beaucoup de discussions avec nos clients. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il faut rajouter 10, 20, 30 centimes à un yaourt parce qu'il est issu d'une race à faible effectif? On n'a pas vraiment la réponse, mais on en parle. Et en fait, on apprend un petit peu comme ça et on partage nos réflexions avec nos clients.
Vous êtes sur une ferme de 40 hectares, c'est ça?
45,
ouais. Ouais. Et vous êtes combien en fait à vivre de votre métier sur cette ferme?
on est entre 7 et 8 temps plein. Donc, il y a 5 associés et puis 4 salariés qui sont certains à temps plein, mais d'autres à temps partiel.
Mais ça fait un sur dans un territoire, dans un petit village, ça fait quand même une sacrée entreprise, ça.
On est la grosse boîte du village. Et ce qui est marrant dans notre village, qui s'appelle Montflour, c'est que c'est un village de 150 habitants, à peine. L'école a fermé il y a 15 ou 20 ans, les derniers commerces en même temps. Il restait 4 fermes en activité, avec donc 4 paysans en gros. Et d'un coup, on arrive avec les associés, mais aussi les familles des associés, donc des enfants, des... Et ça a recréé, dès la première année, en fait, quand on est arrivé à la ferme, il fallait la transformer. C'était une ferme qui produisait du lait en filière longue. Et pour développer toutes nos activités, on a eu besoin de la transformer. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années. Mais le four à pain, on a réussi à le mettre en route assez rapidement. Et à la première fournée de pain qui a eu lieu en avril 2011, on s'est installé en janvier 2011. En avril 2011, le fournil était prêt. La première fournée de pain est sortie. La moitié des foyers du village sont venus chercher un bout de pain. Et pour nous, c'était vraiment la réussite. C'était vraiment ça qu'on cherchait. Hein. On cherchait à recréer de la vie dans la campagne, parce que ça nous rendait tristes de voir toutes ces voitures circuler pour aller au travail et toutes les campagnes qui se vidaient, les écoles qui fermaient. C'était vraiment un de nos premiers objectifs. Redynamiser la campagne. Oui.
Marc, donc avant, sur cette exploitation, il y avait combien de c'était l'équivalent de combien de d'emplois en fait sur la ferme en filière longue.
Eh bien, il y avait un couple d'exploitants après qui donnaient du travail plus loin à travers l'industrie agroalimentaire, les fournisseurs de semences. Mais nous, on a aussi des liens. Avec des filières longues, c'est-à-dire que par exemple, on achète des pots en verre pour mettre nos yaourts, c'est aussi des fabricants. Enfin, c'était pour ne pas simplifier trop la question. Ouais. Effectivement, un couple qui produit 300 000 litres de lait, ça engendre aussi de l'activité derrière. C'est tellement joyeuse et nourrissante intérieurement, mais.
Merci Marc de ne pas être trop simpliste, mais néanmoins, en fait, le sujet, c'est bien retoucher terre et c'est bien la capacité, en fait, à retravailler un métier, un autre rapport en créant de la valeur ajoutée sur place. Et c'est bien ça dont il s'agit, quoi. Hein.
Et oui, oui.
Voilà, donc moi je trouve chapeau, quoi. Et puis, s'il y avait bien, enfin, moi je trouve que votre exemple, c'est un exemple très fort dans ce que l'on entend de plus en plus, pas assez encore, en tout cas pour réorienter des politiques plus ou moins opaques, si vous voyez ce que je veux dire, mais de dire, voilà, oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle que de réinterroger en fait notre société au regard écologique et notamment l'agriculture. Parce que l'agriculture, des scientifiques, des économistes le disent, il y a besoin de main-d'œuvre si on veut avoir une agriculture qui soit durable, qui soit pérenne et qui retravaille sous forme d'autres liens la production alimentaire. Voilà, et je trouve que vous êtes un exemple absolument incroyable. Et alors, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, ce qui est très étonnant, me semble-t-il, c'était la suite de la question de Sylvie, hein. C'est-à-dire vous êtes dans une forme d'autonomie, à la fois dans votre collectif, une forme d'autonomie qui surfe, me semble-t-il, entre une forme d'autonomie d'indépendance, et à la fois complètement en lien avec cette interdépendance-là que vous mijotez en étant très prudent, mais qui vous permet finalement, et peut-être de manière un peu paradoxale, de garder cette autonomie. Puis alors cette autonomie, ce qui est très touchant, c'est que vous avez ce même regard au niveau des pinoirs, au niveau des vaches, où finalement, il n'y a pas besoin en fait de mettre en place des protocoles, des suivis vétérinaires, etc. Il y a une forme d'équilibre, une forme de relation en fait à la vie qui est tout à fait en pointe et voulue par vous.
Mais c'est vrai que les Bretagnes pinoires, pour moi, correspondent très bien à l'esprit de notre ferme.
On est en plein dans le sujet sur lequel j'ai vraiment, vraiment envie d'entendre Iseute, qui justement est sorti, et c'est vraiment un bel exemple, du côté je vais acheter la dernière bineuse, le dernier semoir, mais je vais plutôt réutiliser, adapter des choses qui existent. Vous avez fait des trucs incroyables, Isote, avec l'atelier paysan.
L'atelier paysan, en fait, c'est une coopérative qui se met un peu, je dirais, au service des paysans d'un point de vue technique et qui les aide en fait à trouver, leur plaidoyer, c'est la souveraineté technologique. C'est vraiment en fait trouver des solutions. L'idée va jamais partir d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont voir les paysans et les paysans, ont des problèmes tous les jours parce que c'est un métier quand même qui nécessite beaucoup de matériel, et du coup on va, en réfléchissant ensemble, et parce que eux ils ont quand même des ingénieurs et ils savent faire, et ben ils essayent de nous encadrer de nous encadrer pour trouver des solutions. Et c'est là en fait où on voit que les solutions techniques, ça peut être politique, ça dépasse complètement. Donc le béaba, bien sûr, c'est d'apprendre à souder, c'est là-dessus un peu qu'ils se sont fait connaître, mais en fait maintenant c'est vraiment d'où vient le matériel, comment on va l'utiliser, comment on met en place les choses. Et ils sont développés, enfin, ils sont dans tous les domaines. Ils sont dans le domaine de la bière artisanale, dans le domaine de l'apiculture, dans le domaine des fours à pain. Enfin, maintenant, je pense que tous les gens qui sont issus du milieu agricole et qui s'installent entendent parler de l'atelier paysan et les contactent et mettent en place une partie de leur ferme grâce à eux. Ils font même une formation maintenant de 2 mois au début où on s'installe, qui s'appelle s'installer en collectif et qui permet en fait de réfléchir toute la ferme en collectif. Et quand on maîtrise certaines technologies, on va pas avoir imaginé les choses de la même manière que si déjà on arrive, on doit apprendre le métier de paysan, et ensuite on se dit faut aussi que je fasse un CAP mécanique, un CAP maçonnerie, un CAP, et forcément au bout d'un moment on va pas faire tout ça, et du coup on va avoir les commerciaux, et puis on emprunte de l'argent, et puis on prend les solutions toutes faites. Donc c'est vraiment chouette ce qu'ils font, et ça permet vraiment à des gens non issus, qui n'étaient pas bricoleurs à la base, de se lancer. Moi, j'ai vraiment pris confiance avec eux, j'avais jamais soudé. Maintenant, on a un problème sur la ferme, on ne va pas construire des outils tous les jours, mais les soudures de base, on ne se pose même plus de questions, on les répare comme ça, entre deux passages, quoi. Donc nous, on a tous les outils de base, même si maintenant on s'oriente de plus en plus vers moins de travail de sol, donc on les utilise de moins en moins, mais quand même. Et puis on a le bicitracteur, donc le fameux AgroZouk, et lui, il a plutôt été mis en place par Farming Soul. C'est aussi une petite coopérative qui a rejoint l'atelier paysan et qui a développé l'outil. Et maintenant, on se lance dans le bâti, donc on voulait faire une vraie serre à plan, comme on l'entend, en fait. Essayer de ne pas la chauffer, parce qu'en fait, les plantes d'aubergines, tomates, poivrons, notamment, ils ont besoin de chaleur pour démarrer au mois de février, quand il fait encore assez froid dehors. Et donc, on est avec l'architecte de l'atelier paysan, et on tente de faire tous les plans. Et entre la fin du printemps et l'hiver prochain, on espère lever cette serre et faire nous-mêmes nos plans, quoi.
Là, c'est une vraie acquisition d'une autonomie incroyable sur l'exploitation. C'est de se dire, on dépend finalement de personne, si ce n'est de notre collectif et puis de l'atelier paysan, mais on s'auto-forme. Ça doit donner une satisfaction quand même dans son activité.
Exactement. Et c'est quand même beaucoup de travail, hein, parce que ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'on y réfléchit sérieusement, qu'on fait des allers-retours. Enfin, clairement, c'est beaucoup plus simple d'acheter une serre avec du plastique et du métal et de la monter, hein. Mais bon, après, nous, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Et maintenant qu'on est un peu plus stabilisé sur les activités de production de base, on se permet ce genre de choses. Mais faut bien voir que faut s'y mettre. Après, je pense que dans les profils des gens qui reprennent des études et qui changent et des reconversions, il y a quand même des gens qui cherchent, qui sont friands d'entrer par cette porte, en tout cas.
Alors, dernière question à tous et Jean-Yves, bien sûr, aussi. Quel conseil vous donneriez-vous, avec votre expérience, avec votre parcours, pas du milieu agricole, etc., à ceux qui nous écoutent?
Moi, le message fort que j'aurais envie de faire passer, c'est appuyons-nous sur les réseaux qui existent déjà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les bousculer, mais qu'il y a déjà beaucoup d'expérience accumulée. Et Et je crois vraiment qu'on est efficace si on fait avec les autres. Même nous qui sommes un groupe, si on s'était enfermé sur notre propre groupe ou si on était resté bloqué sur des idées, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça. Ça a été serein pour nous aussi parce qu'on s'est laissé remettre en cause par d'autres. Quand on a des idées de projets, on idéalise ce qui est nécessaire, on rêve. Et parfois, on n'a pas envie de se faire abîmer notre rêve. Alors que je crois que finalement, c'est une très bonne chose de se faire bousculer son rêve. Mais il ne faut pas lâcher.
Merci, Iseut.
Alors moi, je rejoindrai un petit peu quand même ce que disait Marc. C'est que je sais d'où je viens et je sais que je me suis installée grâce à... Donc nous, notre SIVAM local en Ile-de-France, c'est Abiosol. Et c'est vraiment cette structure d'accompagnement. En fait, je sais très bien que j'aurais jamais eu le réseau, j'aurais jamais pu faire le test sans le test d'activité, j'aurais jamais acquis un minimum d'expérience pour pouvoir gérer une ferme. Et les AMAP derrière nous, voilà, qui étaient là. Donc c'est vraiment les champs des possibles, Terre de Liens aussi, et le réseau des AMAP et les champs des possibles, ouais, voilà, j'ai dit les trois. Et ben c'est vraiment grâce à eux, pendant 4 ans, enfin un projet d'installation c'est long, et c'est tous ces citoyens derrière qui sont derrière nous et ces accompagnateurs qui permettent d'arriver au bout du projet, quoi. Donc leur conseil c'est vraiment de se tourner vers ces réseaux et puis après d'écouter. Comme disait Marc, d'écouter et de pas partir dans des impasses. Et puis après, ça se fait. C'est possible.
Magnifique expérience en tout cas. J'ai retiré quelques éléments forts qui semblent pouvoir architecturer des démarches. Hein. Donc moi, j'ai entendu le terme de réseau. J'ai entendu le terme d'espace test. J'ai entendu la capacité que vous avez développée à être dans une plurifonctionnalité, sortir en gros du produit était toi. Voilà. J'ai entendu le terme d'associé, d'association, le terme de collectif. J'ai entendu ce terme très important d'accompagnement bien pensé, c'est-à-dire celui que vous souhaitez, voilà, et pas celui qu'on vous propose ou qu'on vous impose. Et puis, deux éléments qui me semblent être primordiaux. Un modèle économique maîtrisé, oui, vous le montrez, on peut maîtriser le modèle économique. C'est aussi en lien avec la pluriactivité et plurifonctionnalité. Puis le dernier, qui me semble être aujourd'hui en cause et à la fois levier pour des nouvelles vocations pour être agriculteur, c'est cette question d'autonomie, en fait, à tous les étages, et cette relation au vivant qui est repensée, rediscutée et mis en œuvre.
Merci beaucoup, vraiment merci à tous les deux porteurs de projets magnifiques.
On espère que ces témoignages vous ont plu et vous ont inspiré. Vous trouverez toutes les ressources et réseaux cités dans la description de l'épisode. Pour approfondir le sujet, vous pouvez également consulter le dossier qui lui est consacré dans le dernier numéro de Village Magazine. On vous retrouve pour un prochain épisode début juin. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.